journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Emmanuel Macron défend un soutien français sans limite à l'Ukraine. Propos tenus à l'Élysée devant les chefs de parti. L'opposition dénonce une rhétorique dangereuse. Nous ferons le point avec Stéphane Robert dans un instant. Déjà 5 mois de guerre à Gaza. Plusieurs pays procèdent à des largages aériens d'aide humanitaire. Une goutte d'eau pour répondre aux besoins d'une population au bord de la famine, nous dira Christian Chéneau. Les groupes de niveau au collège ont du plomb dans l'aile. La mesure annoncée en décembre par Gabriel Attal est remise en cause par la nouvelle ministre de l'Éducation Nicole Belloubet, qui veut davantage de souplesse pour les établissements scolaires. En Chine, 1,5 million de postes d'enseignants sont appelés à disparaître d'ici 2035 avec la baisse de la natalité. C'est le dossier de ce journal signé de notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot. Il n'y a aucune limite, aucune ligne rouge au soutien de la France à l'Ukraine. 10 jours après avoir évoqué l'envoi de soldats français sur le sol ukrainien, Emmanuel Macron a donc franchi une nouvelle étape verbale aujourd'hui dans son engagement contre la Russie. Le président qui recevait ce matin à l'Élysée les chefs de parti pour préciser la position française dans le conflit ukrainien. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir Stanislas.
À la sortie de la réunion, les oppositions étaient plutôt unanimes pour critiquer les propos guerriers du chef de l'État.
Oui, les responsables politiques de l'opposition qui ont assisté à cette réunion, d'abord sont tous ressortis un peu stupéfaits de ce que leur a dit le président. Le soutien à l'Ukraine sera total, a expliqué Emmanuel Macron, sans aucune limite.
Aucune limite. Il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite.
Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.
Le président de la République envisage certains scénarios, pour être très concret. Et quand il envisage le scénario que le front établi à l'est de l'Ukraine bouge, et qu'il avance vers Odessa ou vers Kiev, il ne faudrait en aucune manière le laisser faire. C'est ce qui pourrait engager une intervention. Et je trouve ça extrêmement grave et extrêmement dangereux.
Et tous, hormis les chefs de parti alliés de la majorité, lui ont dit la même chose. Manuel Bompard pour la France Insoumise.
Je suis arrivé avec de l'inquiétude sur la situation. Je ressors avec plus d'inquiétude encore.
Éric Ciotti pour Les Républicains.
J'ai dit que cette position me paraissait inopportune, inappropriée, voire irresponsable.
Ou encore Jordan Bardella pour le Rassemblement National.
Je lui ai indiqué que les positions de va-t-en-guerre qui n'excluaient plus l'envoi de troupes françaises en Ukraine suscitaient l'inquiétude dans le pays, isolaient la France sur la scène internationale et que par cette occasion, elle faisait le jeu de Vladimir Poutine et du Kremlin en exposant les divisions du camp occidental.
Emmanuel Macron s'est justifié en assurant que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force et qu'il faut par conséquent afficher de la détermination. Il est aussi convaincu, explique son entourage, que la France en tant que puissance nucléaire a une responsabilité particulière dans la gestion du conflit, car compte tenu des capacités militaires tricolores, Vladimir Poutine n'écoute pas la France de la même manière qu'il écoute l'Allemagne, la Grèce ou la Slovénie. C'est la raison pour laquelle il affiche des intentions martiales, car selon lui, l'heure est grave. L'Ukraine montre des signes de faiblesse et si jamais Vladimir Poutine accomplissait son espoir de conquête, il ne s'arrêterait pas là. Toutes les démocraties occidentales seraient alors menacées, estime le chef de l'État français. Par conséquent, son attitude qualifiée de va-t-en-guerre par ses opposants aspire au contraire, selon l'Élysée, à prévenir et à mobiliser les partenaires européens de la France autant qu'à mettre en garde Vladimir Poutine.
Stéphane Robert, merci. La Russie n'a pas tardé à critiquer les propos d'Emmanuel Macron. Le président français accroît l'implication de la France dans le conflit en Ukraine. Voilà ce qu'a déclaré le Kremlin. On retrouve à Moscou Sylvain Tronchet.
Jour après jour, le ton se durcit toujours un peu plus entre Paris et Moscou. Après les propos d'Emmanuel Macron réitérant que la France n'avait aucune ligne rouge dans son soutien à l'Ukraine, le Kremlin n'a pas tardé à réagir par la voix de son porte-parole, Dimitri Peskov, qui estime donc que la France s'implique de plus en plus dans le conflit en Ukraine, sous-entendu se rapproche de plus en plus du statut de co-belligérant aux yeux de Moscou. Dimitri Peskov n'a pas manqué malgré tout de souligner que tout le monde n'était pas sur cette ligne en France et en Europe, insistant même sur le fait que le ministre français des Affaires étrangères lui-même, Stéphane Séjourné, avait fermé la porte à l'envoi de troupes françaises dans l'immédiat. Le Kremlin cherche donc surtout à montrer que le président français est isolé et sa position ne va pas dans l'intérêt du peuple français, appuie Dimitri Peskov, dont les propos restent relativement mesurés, contrairement à ceux de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe devenu faucon du régime, qui écrit cet après-midi que si la France n'a pas de limite en Ukraine, alors la Russie n'a plus de ligne rouge vis-à-vis de la France.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Culture en Russie.
Ursula von der Leyen peut compter sur sa famille politique pour un second mandat à la tête de la Commission européenne. Réunie en congrès à Bucarest, le PPE, le Parti populaire européen, a décidé de soutenir l'actuelle présidente. La grand-messe des conservateurs européens a rassemblé dans la capitale roumaine les eurodéputés du PPE, les chefs de parti, et pas moins de 12 chefs d'État et de gouvernement. On retrouve à Bruxelles Angélique Boin. Bonsoir.
Bonsoir.
Angélique, à une écrasante majorité, le PPE a donc entériné la candidature de l'ancienne ministre allemande de la Défense, âgée aujourd'hui de 65 ans.
Oui, par 400 voix pour et 89 contre, Ursula von der Leyen franchit donc une étape essentielle vers un second mandat. C'était important pour elle d'être investie par ce parti, car la règle à l'issue des élections européennes veut que les dirigeants choisissent le ou la présidente de la Commission au sein de la famille politique arrivée en tête du scrutin. Or, le PPE est donné largement favori. Elle sera donc la candidate naturelle. Elle s'est assurée, dit-on d'ailleurs, du soutien de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Mais précisons que rien ne leur interdira tout de même de choisir un ou une autre personnalité issue de la droite. En 2019, les 27, rappelez-vous, n'avaient pas voulu de Manfred Weber, pourtant investi par le parti, et avaient sorti de leur chapeau l'ancienne ministre de la Défense allemande. Ajoutons que si toutefois elle était bien désignée par les dirigeants, elle devra encore franchir une autre étape, celle du Parlement, avec un vote à la majorité absolue. En 2019, elle n'avait été élue qu'avec 9 voix d'avance. Le chemin est donc tortueux. Son récent virage à droite sur les questions climatiques ou sur les migrations lui valent bien des critiques en ce moment, à gauche et chez les Verts. Son bilan est certes jugé positif. Elle a traversé les crises, Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique, avec poigne et efficacité. Mais son mode de gouvernance autour d'une garde rapprochée, très autoritaire, son indépendance par exemple en matière de politique étrangère, en font aussi une présidente controversée ici à Bruxelles et dans certaines capitales. Ursula von der Leyen va donc se retrousser les manches et poursuivre sa campagne. Nous avons 90 jours avant ce scrutin, a-t-elle martelé tout à l'heure, en remerciant l'assistance pour sa confiance et son large soutien, a-t-elle dit. Large soutien qu'il faut tout de même tempérer. 90 voix des présents ont manqué à l'appel, dont l'intégralité de la délégation française LR, à l'exception de Michel Barnier, qui s'est abstenu.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. La contestation sociale ne faiblit pas en Allemagne. Alors que le pays est entré en récession l'an dernier, une double grève a débuté ce matin dans les transports. Elle concerne les trains et les avions. Les syndicats réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Dans un contexte de forte inflation, les conflits sociaux se multiplient outre-Rhin. Une situation atypique dans un pays pourtant réputé pour la qualité de son dialogue social. Sébastien Bayer nous appelle de Berlin.
L'historique des grèves s'allonge semaine après semaine. Médecins, employés des transports publics, salariés de la métallurgie et chaque fois au cœur des discussions, la question des salaires et des conditions de travail. Après une longue période d'inflation, les syndicats exigent des augmentations, plus 12,5% par mois par exemple pour le personnel au sol de Lufthansa. Le syndicat GDL des conducteurs de train revendique, lui, le passage à la semaine de 35 heures au lieu de 38 avec maintien du salaire et une prime pour compenser la baisse du pouvoir d'achat. Voici donc la culture du compromis si chère à l'Allemagne, qui vacille. Cette capacité à désamorcer les conflits avant qu'ils s'enveniment est mise à l'épreuve dans un contexte social très tendu. C'est déjà le 5e mouvement de grève des conducteurs de train depuis novembre, le 4e chez Lufthansa en l'espace de quelques mois. En janvier, le ministre des Transports avait jugé dramatique pour l'économie les arrêts de travail à la Deutsche Bahn, avec un impact évidemment pour des centaines de milliers de voyageurs, mais aussi pour les secteurs automobiles, chimiques et sidérurgiques, dont l'approvisionnement dépend étroitement du transport ferroviaire. Ces grèves coûtent cher à la première économie européenne. L'Allemagne comptait pourtant jusqu'à présent parmi les pays européens les moins grévistes, 18 jours par an en moyenne pour 1000 salariés contre 92 en France.
La guerre à Gaza est entrée aujourd'hui dans son 6e mois. Selon les chiffres du Hamas, la riposte israélienne au massacre terroriste du 7 octobre a déjà fait plus de 30 000 morts et les espoirs d'une trêve avant le Ramadan la semaine prochaine s'éloignent. Les discussions en Égypte sont au point mort. La délégation du Hamas présente au Caire a quitté aujourd'hui la capitale égyptienne pour des consultations avec la direction politique du mouvement islamiste installé à Doha au Qatar. Il y a pourtant urgence alors que la famine menace les habitants de Gaza et les largages aériens d'aide humanitaire ne suffisent pas, Christian Chéneau.
face aux difficultés d'approvisionnement terrestre qui dépendent du bon vouloir d'Israël, plusieurs pays, parmi lesquels les États-Unis, la Jordanie et la France, ont commencé à parachuter de l'aide dans le nord de la bande de Gaza. Aujourd'hui, Washington et Amman ont annoncé un troisième largage aérien. Des avions américains de type C-130 ont ainsi déversé plus de 38 000 repas au moment où l'ONU appelle le monde à inonder l'enclave palestinienne d'aide pour sauver les enfants qui commencent à mourir de faim. Mais ces parachutages ne sont qu'une goutte d'eau, d'où l'idée d'un corridor maritime depuis Chypre qui refait surface. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, fait pression sur Israël pour utiliser le port d'Ashdod comme point de débarquement de l'aide humanitaire. Des demandes en ce sens ont été faites aux autorités israéliennes qui les ont refusées jusqu'à aujourd'hui. Demain, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est attendue à Larnaca, à Chypre, pour évoquer la mise en place d'un corridor maritime. Mais l'ONU, comme les ONG, répètent que la solution à la crise alimentaire à Gaza passe par un cessez-le-feu qui permettrait l'ouverture du point de passage de Rafah afin de laisser entrer des centaines de camions toujours bloqués en Égypte.
Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France. Et puis on l'apprend à l'instant, le président américain Joe Biden devrait annoncer tout à l'heure au Congrès qu'il a ordonné à l'armée américaine d'établir un port à Gaza pour acheminer par la mer davantage d'aide humanitaire pour le territoire palestinien assiégé. Que reste-t-il ce soir des groupes de niveau que Gabriel Attal voulait mettre en place au collège? Pas grand-chose, si l'on en croit Nicole Belloubet. La nouvelle ministre de l'Éducation a décidé d'introduire une certaine souplesse dans la mesure. Dans une interview au journal Le Monde, elle parle désormais d'une organisation facultative à la discrétion des chefs d'établissement. Rappelons qu'en décembre dernier, Gabriel Attal, qui était encore ministre de l'Éducation, avait annoncé la création de ces groupes de niveau dès la rentrée prochaine en 6e et en 5e. Les explications de Sonia Princé.
Le ministère ne parle plus de groupe de niveau. Le mot est devenu tabou. Il parle de groupe de besoins ou groupe de compétences. Pas question de stigmatiser les élèves et de leur mettre une étiquette. Autre revirement, il sera possible de faire cours en classe entière à certains moments de l'année, notamment début d'année scolaire pour évaluer les difficultés des élèves ou par exemple pour enseigner une nouvelle notion de mathématiques à tous les élèves en même temps et ensuite travailler par groupe en fonction des besoins. Chaque collège devra trouver son organisation. Les professeurs se réuniront deux demi-journées en juin pour fixer le cadre qui devra être présenté au rectorat, mais plus aucune contrainte, y compris sur le nombre d'élèves dans le groupe des plus faibles. Il ne sera plus limité à 15, ce sera à l'appréciation des enseignants, mais surtout en fonction des moyens disponibles, car ce rétropédalage s'explique surtout par le manque de professeurs. Le ministère a promis 2300 postes supplémentaires pour mettre en place ces groupes, mais à l'échelle des 7000 collèges, c'est insuffisant. Il aurait fallu rogner sur les options, supprimer les cours en demi-groupe en travaux pratiques de sciences. Les enseignants en grève début février avaient dénoncé ces conséquences. Plus de souplesse permet d'appliquer la mesure à minima. Cela va se traduire par du travail en groupe comme ceux qui se pratiquent déjà quand c'est possible. On est loin des groupes de niveau tels que Gabriel Attal les avait imaginés en décembre dernier.
Et les syndicats d'enseignants saluent la remise en cause de ces groupes de niveau. C'est un recul de la ministre, estime Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU. Satisfaction notamment en Seine-Saint-Denis, où de très nombreux enseignants sont en grève depuis le 26 février. Un mouvement pour dénoncer le délabrement des établissements scolaires dans le département francilien. Les syndicats qui appelaient aujourd'hui à une manifestation devant le ministère de l'Éducation pour réclamer un plan d'urgence. Le reportage de François Chagnot.
Cette fois-ci, c'est sous les fenêtres du ministère que le personnel de l'Éducation nationale de Seine-Saint-Denis a crié sa colère.
Pour l'école publique, du fric !
Plan d'urgence avec ses 358 millions, ce professeur d'histoire-géographie d'un collège de Sevran se paierait bien du renfort.
En français, la collègue n'a pas été remplacée quasiment de l'année. En histoire-géographie, on a dû nous-mêmes s'occuper des remplacements. La collègue, pendant 6 mois, n'a pas été remplacée.
Et ça perturbe la scolarité des enfants de Julien Neyer, membre de la Fédération des parents d'élèves du 93.
On a coutume de dire à la FCPE 93 que sur toute une scolarité de la maternelle au lycée, un élève scolarisé dans le 93, il perd un an absence mis bout à bout.
Les syndicats exige donc 5000 enseignants supplémentaires, mais aussi 3000 emplois de vie scolaire. Dans son collège de Villemomble, ce professeur de maths prie pour l'arrivée d'une assistante sociale et d'une infirmière. L'un après l'autre, il désigne ses collègues rassemblés sous sa banderole.
Il leur manque une CPE, il leur manque des surveillants, on a des manques de chaises, des plafonds qui tombent, des rats. Donc c'est pour réparer tout ça. Et on veut moins de 20 élèves par classe. Voilà des vraies annonces. Là, on va avoir des bonnes notes au classement PISA. Là.
Le gouvernement a rétropédalé aujourd'hui sur la mise en place de groupes de niveau. La co-secrétaire générale de la CGT Éducation 93, Louise Paternoster, veut donc maintenir la pression.
La très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on est à 60% de grévistes. La colère s'amplifie. On ira le gagner, ce plan d'urgence pour le 93.
L'intersyndicale appelle à de nouvelles journées de grève la semaine prochaine pendant la réunion du comité social d'administration de l'éducation nationale.
François Chagnot. En Chine aussi, la question de l'enseignement est un sujet de préoccupation majeure. Dans un pays vieillissant qui fait de moins en moins d'enfants, les besoins ne sont plus les mêmes en termes d'éducation. À cause de la baisse de la natalité chinoise, 1,5 million de postes d'enseignants devraient disparaître d'ici 2035. C'est le dossier de ce journal avec notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot.
Les salles de classe chinoises vont peu à peu se vider au cours de la prochaine décennie. 30 millions d'élèves en moins sont annoncés dans le primaire et le secondaire, selon une étude de l'École normale de Pékin. Les plus inquiets, ce sont les étudiants qui se destinent au métier d'enseignant, comme cette pékinoise qui est encore à l'université. Elle s'attend à une diminution des recrutements.
Nous allons devoir améliorer notre qualité et être plus compétitifs pour éviter de perdre notre travail. Ça me préoccupe. Les enseignants vont devoir se préparer à cette situation. J'espère que l'État prendra des mesures, aidera par exemple les enseignants à trouver d'autres carrières. En tout cas, les étudiants, comme moi, doivent commencer à penser à d'autres voies professionnelles.
La Chine a déjà commencé à fermer des dizaines de milliers d'écoles. Les plus touchés se trouvent dans les campagnes chinoises où les effectifs étaient déjà peu élevés, comme l'explique Guo Tingting, qui travaille dans un institut de recherche spécialisé sur l'éducation à Pékin.
La politique varie d'un endroit à l'autre. Certaines municipalités proposent la fermeture immédiate des écoles dès que l'on passe sous la barre des 50 élèves. D'autres décident de fermer progressivement sur 3 ans quand l'effectif passe sous les 200 élèves. Notre institut estime qu'il faut toujours essayer de limiter les fermetures et les fusions d'écoles, en particulier dans les villages ruraux. On encourage cela pour avoir un enseignement de meilleure qualité. Mais c'est difficile car cela demande beaucoup de ressources financières et humaine et un changement de mentalité traditionnelle.
Des députés proposent eux de conserver tous les postes d'enseignants et de profiter de la baisse de la natalité pour réduire le nombre réglementaire d'élèves dans les classes, particulièrement élevées en Chine, comme ici dans cette école à Pékin, 45 élèves en moyenne par classe. Cette maman est d'accord avec la proposition parlementaire.
Dans ces grandes classes, il est difficile pour un ou deux enseignants de s'occuper de tous les enfants. Certains élèves sont repliés sur eux-mêmes ou ont des problèmes psychologiques, mais le professeur n'a pas la capacité de les détecter. Si la classe est de plus petite taille, l'enseignant pourra s'occuper plus attentivement des élèves.
Ces deux lycéens pensent aussi qu'il faut réduire les effectifs dans les classes et que la baisse de la natalité est une occasion pour faire évoluer le système.
Il y a trop d'élèves dans notre classe. Nous sommes au lycée, nous avons beaucoup de pression avec les études. J'aimerais que les enseignants nous accordent plus d'attention. On préférerait évidemment être dans des petites classes.
Dans un cours de 40 minutes, l'enseignant a face à lui 45 élèves. Parmi eux, beaucoup n'ont pas la possibilité de répondre aux questions et ils n'apprennent pas de façon efficace.
Dans les provinces les plus peuplées de la Chine, certaines classes peuvent encore compter aujourd'hui jusqu'à 80 élèves.
Sébastien Berriot à Pékin, dossier à retrouver sur franceculture.fr. C'est un revers majuscule pour TF1. Le diffuseur historique de la Coupe du Monde de football n'a pas acquis les droits télé pour les deux prochaines éditions du Mondial en 2026 et 2030. C'est M6 qui a raflé la mise pour un montant qui n'a pas été révélé. Le président de la chaîne, Nicolas de Taverneau, a démenti ce matin le chiffre de 175 millions d'euros. Aurore Richard, bonsoir.
Bonsoir.
TF1 a fait le choix de ne pas surenchérir sur l'offre de M6. La Une a préféré jeter l'éponge.
Et pour le mondial précédent, TF1 avait fait une offre à 130 millions d'euros, dont 70 millions de sa poche, le reste à la charge de beIN Sport, co-diffuseur de l'événement. Si la première chaîne a été récompensée sur le plan des audiences avec un record absolu lors de la finale France-Argentine, c'est moins vrai sur le plan financier et c'est loin d'être exceptionnel. réel, selon Jean-Pascal Gaillan, auteur de l'ouvrage « Économie du sport ».
On sait qu'en 2014 en particulier, TF1 avait perdu pas mal d'argent. En 2018, a priori, TF1 s'était mieux débrouillé, mais il reste une incertitude. Et c'est vrai que la Coupe du Monde se déroulant sur un autre continent avec des horaires qui seront un peu ingrats, c'est pas forcément si simple que ça de rentabiliser des droits pour cette Coupe du Monde 2026. Donc je pense que TF1 a fait un calcul un peu de prudence et un peu laissé la main, le lead à M6.
L'économiste du sport, Pierre Rondeau, voit dans cette mise en retrait une forme de stratégie.
M6 étant le principal diffuseur, l'unique diffuseur, il peut sous-licencier les rencontres et vendre un petit peu à la carte. TF1, s'étant rendu compte qu'il n'était pas rentable de payer plein pot des lots entiers, a préféré attendre de voir qui allait remporter la timbale et ensuite commencer, je pense, une négociation avec M6 pour pouvoir récupérer des matchs en sous-licence et diffuser les matchs qu'il désire.
Si TF1 échoue dans cette stratégie, la chaîne ne diffusera aucun match de Coupe du Monde et ce serait une première depuis sa création en 1975.
Aurore Richard, merci. Un mot du temps demain, mitigé au nord avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Au sud, un ciel souvent pluvieux en plaine et neigeux en montagne. Les températures minimales iront de 0 à 9 degrés. L'après-midi, il fera en général entre 11 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Guillaume Ficheux. Thank you.